Groupe DBL est le spécialiste en toiture, portes, fenêtres et rénovation à Québec.
Prenez rendez-vous avec un de nos spécialistes pour évaluer vos projets.
Notre équipe cumule plus de 40 ans d'expérience et c'est avec fierté que nous la mettons à votre disposition afin de répondre à tous vos besoins, notamment en matière de recouvrement et de réfection de toiture. Groupe DBL, complice de vos meilleurs projets à Québec. Situé au 791 boulevard Pierre-Bertrand. Estimation gratuite. 418 681 25 22.
GroupeDBL.com.
You're now listening. La radio de Lévis.
96.9.
Talk rock hip hop. L'alternative radio.
Correct, merci. On reste dans le domaine de la sécurité publique. Ça fait un an, ça a fait un an, il y a peu de temps, que la COVID est arrivée dans nos vies. On parle beaucoup des conséquences ici dans l'émission. Il y a aussi les histoires à succès à Lévis. Je pense qu'on peut dire que c'est le cas. Vous m'en parlerez après l'entrevue que voici. Nous parlons aujourd'hui à Luc de la Durantais, directeur du service de sécurité incendie et responsable de la sécurité civile à la ville de Lévis. Bienvenue à l'émission, Monsieur la Durantais.
Merci, bonjour.
Merci d'être là. Très heureux que vous soyez avec nous pour qu'on comprenne les dessous de ce qui s'est produit dans notre ville, dans notre quartier. Quand on pense à tout ce que la ville a eu à mettre en place depuis un an pour faire face à la crise sanitaire, beaucoup de choses sont passées entre vos mains.
Absolument.
C'est le cas avec la responsabilité de directeur du service de sécurité incendie puis responsable de la sécurité civile. Juste pour le fonctionnement, c'est la sécurité civile, c'est un peu un comité, si je comprends bien?
Ben, en fait, la sécurité civile, c'est plutôt une famille d'événements qui sont distincts, si on veut, de l'urgence traditionnelle, comme on peut vivre avec... un service de sécurité incendie ou un service de police. La sécurité civile, c'est tous les aléas qu'on peut avoir à une municipalité comme la nôtre, qu'on exact. Parle de risques naturels ou anthropiques. Là. Mais effectivement, c'est toute une dimension, je dirais, qui fait partie de l'urgence, mais à un niveau plutôt supramunicipal.
C'est pas des gens qui siègent strictement là-dessus en permanence. C'est on va chercher d'un bord et de l'autre les intervenants nécessaires au moment nécessaire. Et bon, il y a eu des moments nécessaires dans la dernière année. Je vous demanderais comme ça, d'emblée, est-ce que ça a été la plus grosse année côté professionnel de votre carrière, M. Ladurantais? De Ladurantais?
C'est tellement une question pertinente. Depuis 1985 que je suis dans le milieu d'urgence. Et puis, je vais vous dire, c'est une année que je n'oublierai pas. Ça a été une année où, effectivement, vivre une situation d'urgence et gérer une situation d'urgence comme celle-là pendant une période d'année, ça restera dans mes mémoires, en tout cas, comme un fait marquant de ma carrière.
Puis vous avez parlé, d'une longue carrière. Peut-être un peu de détails, parlons-en un peu. Qu'est-ce qui mène à être un directeur de service incendie puis responsable à la sécurité civile d'une ville comme Lévis?
C'est un parcours qui nous fait commencer comme pompier à Ville de Montréal au tournant des années 85, puis okay. Avec une formation adéquate et puis le désir de participer et essayer de repousser les limites d'une organisation. J'ai assumé différentes responsabilités. Puis, il y a 3 ans, la ville de Lévis se cherchait un directeur. Puis, je connaissais un peu l'histoire de la ville de Lévis, une ville extraordinaire, autant au niveau de la gestion que des ressources humaines. Puis, j'ai été, heureusement pour moi, choisi pour occuper ce poste-là.
Juste à temps pour gérer la plus grosse année de la carrière. Un an de fête là-dedans. Parlons des premiers moments de la crise qu'on appelle dans l'émission généralement COVIDienne. On a fait un adjectif du mot. Vous n'êtes pas tombé des nues à la conférence de François Legault le 13 mars dernier. Quand est-ce que vous avez une alerte qui a été déclenchée au sens figuré dans les instances où vous travaillez?
Écoutez, déjà en décembre, on avait capté ce qui se passait du côté de la Chine à Wuhan. Au mois de janvier, on avait déjà nos premières discussions avec la direction générale adjointe qui s'occupe des services de proximité
okay.
Et notre conseiller en sécurité publique.
Ah ouais.
Je vous dirais que fin janvier, début février, déjà, on était dans un mode un peu pré-alerte où on avait déjà diagnostiqué certains besoins qu'on pourrait avoir. Donc, on a mis notre service approvisionnement pied d'œuvre pour déjà commencer à à stocker un peu de marchandises qu'on pourrait avoir besoin.
Ah ouais, déjà, fin février, ouais. Vous achetiez des masques, exemple, des gants, des visières peut-être, je sais pas.
On était déjà dans les processus d'analyse des besoins pour mettre ça en œuvre parce qu'on savait que ça s'en venait comme une tonne de briques. Alors oui, effectivement, il y a eu des gestes qui ont été posés. Puis je vous dirais que dans le cours du mois de février, vers la fin, on avait déjà eu un premier comité de direction avec toutes les directions de la ville pour les informer de la situation puis d'un premier plan d'action qu'on mettra en place.
Je suis sur l'actualité à temps plein. Je ne voyais pas la chose avec une telle ampleur. C'est venu d'où, les informations? Est-ce qu'il y a des contacts privilégiés, je ne sais pas moi, avec les services de renseignement fédéraux?
Non.
Non?
Non,
c'est de l'analyse interne.
C'est une analyse interne. Écoutez, il y a quand même des gens avec beaucoup de compétences à la direction générale. Au niveau de la direction, évidemment, chez nous, on a un conseiller en sécurité civile aussi. Puis la question de la pandémie, c'était pas une question, c'est un jour, on était pour en avoir une, c'était plutôt quand.
Ouais.
Donc, on était déjà préparé à la ville avec un plan particulier d'intervention en cas de pandémie. On avait déjà cette information-là. Puis au niveau québécois aussi, ceux qui suivent l'actualité de la sécurité civile, évidemment, c'est un environnement qui n'est pas un environnement étranger pour nous. L'amplitude de tout ça, ça a été quelque chose qu'on n'aurait pas pu imaginer, mais on savait qu'on s'en allait vers une situation qui deviendrait rapidement une situation d'envergure.
Ben, c'est une belle analyse. Je suis pas certain que ça a été fait partout. Félicitations pour ça. Ensuite, après l'alerte ou la pré-alerte et les achats, la priorisation, qu'est-ce qu'on fait en premier face à ce genre de situation-là? Est-ce qu'on pense ressources humaines au premier niveau?
Ben, écoutez, question pertinente encore une fois, mais c'est sûr que dans nos plans d'action, quand on analyse une pandémie, on pense tout de suite à la contamination. On pense tout de suite au niveau du maintien des services essentiels. On saura qu'une municipalité, c'est nous qui assumons les services essentiels auprès de la population. Qu'on pense à la collecte des ordures, au traitement des eaux, le service de police, le service de la sécurité incendie. Et c'est important pour nous de faire une analyse sur la contingence au niveau des ressources humaines qu'on aurait à faire si jamais on était affecté. Dépendamment, évidemment, du pourcentage de contamination. Mais on avait différents scénarios rapidement sur des scénarios qui pourraient nous mener jusqu'à aller en rupture partielle ou totale de certains services si on avait eu beaucoup de nos employés qui avaient été affectés par la COVID.
L'eau potable, ça ne doit pas nécessiter une très grande force de travail nécessairement. Ce n'est pas des milliers de personnes qui s'occupent de ça. Ben, on prend ça pour acquis comme citoyen dans bien des occasions. Mais c'est ça, dans le cas où il y avait eu, ça avait été encore plus contagieux, puis pas de mesures et tout ça. Est-ce que vous auriez quelque chose à nous indiquer sur, parce qu'il faut faire attention à ce qu'on dit aussi, pas donner trop d'informations non plus, mais précisément sur le système de traitement d'eau. Mettons, avez-vous pensé à ça à ce moment-là? Est-ce que vous avez fait des calculs sur des ratios de personnel directement pour ce département-là?
Absolument. Écoutez, tu sais, le traitement des eaux, pour nous, dans les services essentiels, c'est capital, c'est le fondement de la société, de la façon qu'on a besoin de vivre à tous les jours. Donc, le personnel de ces usines-là, traitement des eaux, pour nous, c'est du personnel essentiel, puis on compte sur une équipe extraordinaire au traitement des eaux. Les gens, c'est sûr qu'on oublie ça, on prend ça pour acquis. Mais pour nous autres, c'est pour ça que ces gens-là, on les a aussi, bien supportés d'un point de vue sanitaire. On a mis en place toutes les mesures de désinfection. On a fourni rapidement à ces gens-là aussi toutes les directives pour qu'ils puissent se gouverner de façon sécuritaire puis qu'on préserve leur santé et sécurité, effectivement.
Alors, de la priorisation. On revient à plus général. L'ampleur de la tâche, sans être exhaustif, si vous pouvez me donner quelques commentaires là-dessus, puis tu sais, ça peut être amené à l'humain, là, les semaines de normalement, supposément, à peu près 40 heures. Comment on accueille un si gros écueil que ça, puis une si grosse augmentation de la charge de travail?
Premièrement, j'aimerais juste apporter peut-être une distinction pour les gens qui pourraient nous écouter. La grosse différence là-dedans, c'est qu'habituellement, si on vit un événement de sécurité civile, par exemple, si sur le territoire, puis prenons la crue printanière qui va peut-être nous frapper de façon très modeste cette année, là, mais il arrive des années où c'est quand même assez rock'n'roll. Ben nous, c'est plus facile parce qu'on a les deux mains sur les guidons. Et dans le cas qui nous intéresse, une pandémie avec beaucoup de zones qui étaient absolument inconnues, même pour le gouvernement, nous, on a tout au long, je vous dirais, des premiers mois, disons, jusqu'à l'été, on a navigué un peu dans le brouillard parce qu'on était toujours en attente des points de presse, mais surtout pour nous, des décrets ministériels et des arrêtés ministériels qui viennent ensuite de ça nous donner nos directives pour qu'on puisse appliquer ça. Mais là, imaginez-vous que c'est l'ensemble de nos opérations, que ce soit au niveau des services sportifs, culturels, tout ce qui s'appelle organisme communautaire, l'ensemble de nos services essentiels. Je vous dirais que les premiers mois ont été des mois où on a été hyper chanceux à la ville de Lévis d'avoir des employés aussi dédiés, aussi professionnels, aussi engagés pour nous faciliter la tâche, parce qu'on s'est vraiment ramassé avec des semaines de temps où on demandait aux gens de faire des tâches exceptionnelles dans cette situation-là qui était exceptionnelle. Mais là, en termes d'heures de travail, je dirais que c'était... On comptait pas les heures.
Ben les cadres, c'est sûr. Mais pareil, il y a dans la fonction publique, quelle qu'elle soit, pour les plus exécutants, des normes syndicales très, très précises et appliquées. Est-ce que vous avez eu quelques problèmes que ce soit avec les syndicats depuis mars 2020?
Écoute, je vous dirais que toutes choses étant égales par ailleurs, ils ont été des collègues résilients. Ils ont été aussi supporteurs des modifications qu'on faisait parfois sur certaines tâches. Et si ça n'avait pas été de leur grande ouverture d'esprit, ça aurait pu être un petit peu plus compliqué. Mais fort heureusement, on a pu aussi compter sur toute une collaboration de la part de l'exécutif syndical, des différents exécutifs syndicaux. Et c'est vraiment, je profite de l'occasion aussi pour témoigner toute notre gratitude par rapport à leur support.
C'est l'information qu'on avait eue, puis de toute façon, si ça avait été très problématique, ça aurait sorti fort, assurément. C'est quand même, ça mérite d'être souligné, parce que la sécurité civile, c'est très hiérarchisé. Ça fait penser à l'armée, puis il n'y a pas de syndicat dans l'armée, généralement. Alors, c'est important de noter ça, je pense, dans tout le processus. Mais parlant de hiérarchie, puis de parallèle avec l'armée, est-ce qu'il y en aurait d'autres à faire? Parce que beaucoup ont parlé de guerre, langage a tourné autour du combat beaucoup, et je pense que de votre côté, il y a assurément moyen d'élaborer un peu en ce sens-là. C'est une alerte. Il y a encore des alertes, je pense, que s'il y avait un bombardement, il y aurait moyen que... Puis ça passerait par vous. On alerte les gens. Là, on n'est pas près d'un bombardement, c'est sûr. Mais à quel point ça se compare à une situation de guerre?
Ben, écoutez, spécialement, je vous dirais, dans les premiers mois où on n'a qu'à s'imaginer quand on a reçu les directives du gouvernement de confiner le Québec totalement, écoute, ça s'était jamais vu, là, l'amplitude de tout ça, on le vit encore avec des couvre-feux, tu sais. La seule nuance qu'on a derrière ça, c'est que parfois en temps de guerre, et permettez-moi de dire qu'avec tout le respect que j'ai pour tous nos concitoyens, malheureusement, qui sont décédés à cause de la COVID. Mais ça a été une période qui était somme toute, on n'a pas eu beaucoup de morts, mais malgré tout, on était dans une situation où on a confiné des gens, on a changé nos habitudes de vie, on nous a imposé des règles de fonctionnement qui étaient tout proches aussi d'une situation comme quand on vit une guerre, à l'exception évidemment des dommages parfois qui sont, pour les dommages humains, malheureusement, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus importants. Mais en demeure pas moins que ça a été quand même très proche de la réalité qu'on pourrait vivre s'il y avait des catastrophes rattachées à des conflits entre les peuples.
La discipline s'est enclenchée, puis ça a assurément sauvé des vies, on comprend. On revient au moment présent avec du beau soleil et des hospitalisations en forte baisse. Ça va mieux dans le réseau de la santé. Est-ce qu'on pourrait dire que le brouillard dont on faisait mention un peu plus tôt s'est dissipé?
Écoutez, j'aime beaucoup utiliser une expression qui on commence à voir vraiment la lumière vive au bout du tunnel. C'est une lumière qui est fort heureusement ensoleillée. Si nous tous, On franchit les prochaines étapes avec encore beaucoup de discipline, beaucoup de résilience, qu'on continue à se plier aux mesures sanitaires qui sont mises en place, qu'il y a un grand pourcentage de la population qui va se faire vacciner de façon à ce qu'on puisse atteindre l'immunité communautaire. J'ai fort espoir que avant la fin de l'été, on va avoir vu réapparaître une forme de liberté qui va être apaisante pour tout le monde et qui va nous permettre de reprendre une vie normale. Mais il nous reste encore un petit bout à franchir, puis il faut rester tous très disciplinés derrière les mesures qui sont mises en place. Parfois, c'est se pose des questions pourquoi c'est comme ça, mais on a la chance de vivre dans un beau pays avec des gens qui prennent notre santé au sérieux et qui s'assurent de mettre à notre disposition un cadre sécuritaire. Puis là, bien évidemment, on a les vaccins qui vont augmenter de façon quand même importante au cours des 3-4 prochains mois. Donc, il nous reste un petit bout à faire, mais oui, effectivement, le soleil est là.
Si on parle de zone verte, est-ce que, à votre connaissance, ça viendrait avec plus de mesures, des mesures supplémentaires à la sécurité publique, à la sécurité civile de Lévis ou dans la fonction que vous occupez, là, aussi au service incendie? Comment on voit des changements arriver? Parce que il y aura une libéralisation chez les citoyens qui va être nécessaire aussi. À un moment donné, il peut y avoir des tensions là, si on insiste un peu indûment. Est-ce que si on desserre à quelque part, on devra serrer? Parce que vous comprenez où je veux aller, plus dans l'appareil, ou avez-vous des choses que vous avez vues en ce sens-là qui pourraient arriver prochainement?
Bien, écoutez, j'essaie d'observer évidemment avec beaucoup d'attention ce que le gouvernement décide. Dans les derniers mois, il a été excessivement prudent.
Ouais.
On l'a vu dans le déconfinement qu'il a fait depuis la semaine de relâche. Ils ont sous leur radar, évidemment, le variant britannique qui devrait nous frapper. Maintenant, son amplitude, ça dépendra évidemment des efforts qu'on va faire d'aller se faire vacciner puis de respecter les mesures, mais il en demeure pas moins qu'il va quand même rester un petit bout de temps. Par contre, je suis persuadé que quand on aura passé à travers cette troisième vague-là, et que le taux de vaccination va augmenter de plus en plus, on va voir arriver une zone jaune, une zone verte, où là, il restera peut-être quelques restrictions, mais qui vont nous permettre de prendre une vie relativement normale. Ce sur quoi, par contre, j'insisterai pour dire que la normalité de notre vie pour les années à venir va être affectée par la COVID. Puis je suis persuadé qu'on va voir pour probablement un bon bout de temps, malgré qu'on soit retourné au vert, une certaine forme de certaines mesures peut-être très légères, mais de façon à s'assurer de poursuivre certains efforts pour éviter que de nouvelles souches viennent recontaminer. Fait que j'ai comme l'impression qu'on va vivre quelques années avec une nouvelle normalité par rapport à ce qu'on a revécu avec la COVID.
Des masques, la distanciation, des choses comme ça, on espère que ça se cantonne à ça. Pour ce qui est des vacances, on parle souvent ici à l'émission du fait que les travailleurs de la santé, on espère qu'en ce moment, exemple, ils aient pu avoir un petit break. Est-ce que ça, si le retour en zone verte se fait, ou peut-être même avant, je sais pas, de votre côté, puis de ceux qui ont été aussi sollicités que vous, là, est-ce que c'est à l'ordre du jour, ça?
Ben écoutez... Je le répète, nous, on est chanceux, on est capable d'évaluer le rendement de la grande famille de la ville de Lévis, puis on a été choyés d'avoir des employés aussi exceptionnels. Mais maintenant, je vais parler comme un citoyen québécois. On a été choyés d'avoir des gens aussi exceptionnels dans le réseau de la santé. Et je leur souhaite, le plus tôt que tard, que ces gens-là aussi, on fasse un dernier effort pour qu'ils puissent eux autres aussi reprendre un petit peu de liberté avec leur famille, parce que sans eux, là, les efforts qui ont été faits dans le réseau de la santé, sans leur résilience, leur engagement, on aurait pu connaître des moments beaucoup plus difficiles. Alors oui, j'espère qu'eux autres ici vont revoir apparaître les zones qui vont leur permettre de reprendre des vacances, de se reposer, qu'on va pouvoir justement les voir eux aussi être récompensés un peu par tous les efforts qu'ils ont faits depuis aussi un an.
J'ai un radar à déflexion, monsieur de la Durantais. Vous n'avez pas parlé de vacances pour vous ou votre monde. Est-ce que ça peut être quelque chose d'envisageable à court terme ou à moyen terme, des vacances?
Ah oui, vous. Écoutez, pour moi, ben écoutez, je vous dirais que j'ai la carapace assez dure, comme un capitaine dans un bateau. Hein. On ne veut pas abandonner le bateau tant et si longtemps que tout le monde n'est pas sain et sauf. Alors, Mais je vous dirais qu'on est quand même, après un an, très conscient aussi que la vie continue parce que il y a la pandémie, mais aussi dans le rôle que j'occupe, puis toute l'équipe avec qui j'ai la chance de travailler tous les jours, on a quand même une population de 150 000 personnes qui s'attendent à ce que 24 heures par jour ou 7 jours par semaine, on les garde en sécurité, qu'on s'assure de les préserver s'il se passait à autre chose. Fait que,
ben c'est ça. Parce qu'il peut toujours y avoir deux catastrophes simultanément. Un malheur n'arrive jamais seul, comme dirait ma grand-mère.
Oui. Alors,
content que vous pensiez à ça. On vous le souhaite fortement. Ça a été très instructif. Un grand merci, Luc de la Durantais. C'est très intéressant. Puis pour terminer, peut-être, là, tu sais, je parlais des vacances. C'est la pénurie de main-d'œuvre encore, à Lévis particulièrement. Est-ce que vous auriez besoin d'appui si quelqu'un nous entend et se dit ça l'a inspiré? J'aimerais ça travailler avec l'équipe de Luc de la Durantais, de travailler à la sécurité publique ou pour le service incendie. Peut-être une petite plug en terminant pour le fonctionnement.
C'est gentil de l'offrir, mais je ne serais pas égoïste dans votre offre. Oui, au service d'incendie, on a des campagnes de recrutement pour avoir du personnel qualifié, mais la ville de Lévis aussi, c'est un employeur de choix. Et je peux vous dire qu'on est en pénurie de main-d'œuvre dans plusieurs secteurs d'activité. Puis oui, j'invite les gens à venir chez nous, à venir découvrir notre organisation. Puis je peux les assurer que quand ils rentrent, ils vont rapidement se sentir très confortables dans une belle famille, qu'on prend soin de l'ensemble de nos employés. Au meilleur de nos connaissances avec toutes les capacités qu'on a.
Très intéressant. Merci de nous avoir permis de connaître un peu de cette réalité-là. C'est vraiment fortement apprécié. Au plaisir. On mettra ça, si vous voulez bien, avant longtemps. Merci beaucoup.
Grand plaisir.
À la prochaine. Luc de la Durantais, directeur du service de sécurité incendie de la ville de Lévis, puis aussi c'est le responsable de la sécurité civile. On se sent en bonne main. 17h27 dans les salles des nouvelles.